Nous lisons dans Jean 12, à partir du verset 23.
Jésus leur répondit : L'heure est venue où le Fils de l'homme doit être glorifié. En vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Celui qui aime sa vie la perdra, et celui qui hait sa vie dans ce monde la conservera pour la vie éternelle. Si quelqu'un me sert, qu'il me suive, et là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, le Père l'honorera. Maintenant mon âme est troublée. Et que dirais-je ? Père, délivre-moi de cette heure. Mais c'est pour cela que je suis venu jusqu'à cette heure. Père, glorifie ton nom. Et une voix vint du ciel. Je l'ai glorifié et je le glorifierai encore. La foule qui était là et qui avait entendu disait que c'était un tonnerre. D'autres disaient, un ange lui a parlé. Jésus dit, ce n'est pas à cause de moi que cette voix s'est faite entendre. C'est à cause de vous. Maintenant a lieu le jugement de ce monde. Maintenant le prince de ce monde sera jeté dehors. Et moi, quand j'aurai été élevé de la terre, j'attirerai tous les hommes à moi. En parlant ainsi, il indiquait de quelle mort il devait mourir.
Alors, nous venons de lire ce passage qui est un passage difficile, un moment difficile pour le Seigneur Jésus, qui réalise concrètement qu'il va vers la mort. Et il sait que entre cet instant et sa mort, il va y avoir toutes sortes de souffrances et toutes sortes de persécutions, et surtout qu'il n'aura plus à user de sa gloire pour être protégé. Vous savez que à plusieurs reprises, on a cherché à éliminer Jésus, mais il ne pouvait pas l'avoir, il ne pouvait pas le toucher parce que sa gloire était là. Mais là, il sait que viendra un temps où tout ça va être enlevé afin qu'il soit livré aux forces des ténèbres, livré à ce monde, pour jeter en pâture à ce monde. Il appréhende tout ça. Il sent combien ça va être lourd jusqu'à être ponctué par la crucifixion. Il sait que ça va être difficile. Et il a envie de faire marche arrière. Il a envie d'arrêter tout ça. Parce que l'avenir est sombre pour lui. L'avenir est difficile. Même si, il sait aussi qu'il va ressusciter le troisième jour. Il sait aussi que ce qu'il va vivre là, c'est ça qui fait sa gloire. Il le dit. Jésus leur répondit, l'heure est maintenant venue où le Fils de l'homme va être élevé à la gloire. Il sait que la crucifixion, ses souffrances, c'est ça aussi sa gloire. Voilà une définition de la gloire que beaucoup ne connaissent pas. Nous, quand on dit gloire, on voit tout simplement la magnificence, la puissance, les œuvres merveilleuses du Seigneur, les galaxies, des milliards de galaxies qu'il a créées, l'homme, un être magnifique qu'il a créé, les miracles, la puissance. Mais Jésus appelle ses souffrances, appelle ses difficultés, sa gloire aussi. C'est sa gloire. Et nous devrons apprendre de lui. Quand il dit, je vais être élevé à la gloire, il s'agit de la croix. Il s'agit de tout le processus. C'est ça qui fait sa gloire. C'est pourquoi quand Jésus est ressuscité, il a gardé les trous dans les mains. Pourtant, le corps était nouveau. Peut-être d'autres blessures qui s'étaient faites. Voilà. qui avait laissé des petites cicatrices, mais tout ça a disparu. Mais les trous dans les mains et dans les pieds et aux côtés, ça n'a pas disparu parce que c'est ça le symbole de sa gloire. L'œuvre de la croix. Ça doit nous apprendre que la gloire, ce n'est pas forcément les choses merveilleuses qu'on peut faire avec Dieu. Mais la gloire, c'est surtout lorsqu'on s'offre à Dieu complètement. C'est ça notre gloire. C'est ça qui nous accompagnera au ciel. Parce que les exploits que nous faisons sur terre, c'est Dieu qui les fait à travers nous. Mais s'offrir, il y a notre accord dans le fait de s'offrir à Dieu. Donc c'est aussi notre gloire. Et cette gloire-là sera révélée comme il faut au ciel. Mais ici sur terre, c'est déjà notre gloire que de s'offrir au Seigneur. Et Jésus est vraiment troublé. Mais qu'est-ce qui le raccroche? Qu'est-ce qui le raccroche? C'est ça notre verset principal aujourd'hui. C'est le verset 27 qu'on va relire. Verset 27.
Maintenant, mon âme est troublée. Et que dirais-je? Père, délivre-moi de cette heure. Mais c'est pour cela que je suis venu jusqu'à cette heure.
Voilà, qu'est-ce qui accroche Jésus-Christ? Qu'est-ce qui accroche Jésus? C'est le fait que il soit venu pour ça. C'est-à-dire, il est venu pour être l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Il est venu pour servir de sacrifice pour notre salut. Il est venu pour retirer sa gloire par son sacrifice, par ses souffrances. Il est venu pour ça. Mais au moment où ça va être l'apogée, le maximum de toutes ses souffrances, il tremble. Il a peur, mais il se dit, si j'arrête là, à quoi ça sert que je sois venu sur terre? Nous devons nous poser cette question-là, toujours. Si je m'arrête, mais pourquoi j'ai été 25 ans chrétien? À quoi ça a servi? Et en ce moment, je suis face à une difficulté et je veux arrêter. Je veux faire marche arrière. Mais ça a servi à quoi que je construise tout ce que j'ai construit? Ça va servir à quoi que je divorce après toutes ces années de construction d'une famille? À un moment donné, c'est notre mission, c'est le but de notre appel, de notre venue. C'est le but de Dieu en nous qui va nous raccrocher. Et plus que tout, c'est l'œuvre de Jésus-Christ accomplie à la croix qui va nous raccrocher à lui. Aujourd'hui, on s'offusque de toutes sortes de mauvaises nouvelles qu'on entend à gauche, à droite, des chrétiens qui prennent des mauvaises directions, qui chutent, des serviteurs de Dieu. Et nous nous posons la question, mais comment se fait-il que ça arrive? Et les jeunes, parfois, dans la foi, ont peur de continuer avec le Seigneur. Ont peur d'aller plus loin, ils se disent, peut-être ça risque aussi de m'arriver. Aujourd'hui, le Seigneur nous donne une clé pour remporter la victoire jusqu'au bout. C'est l'appel du Seigneur. L'appel du Seigneur. Tu te dis, mais si je m'arrête là, à quoi ça a servi que Dieu m'appelle? Qu'est-ce qui doit nous motiver? Qu'est-ce qui peut nous aider? C'est l'œuvre accomplie par Jésus à la croix. S'en souvenir tout le temps. Se dire, si Jésus est venu sur terre, c'est pour me donner la victoire devant la situation difficile qui est devant moi. On peut t'amener à l'extrémité. On veut que tu cries. On veut que tu parles mal. On veut que tu te battes. Il faut que tu te souviennes. Mais si je suis chrétien, Si Jésus est mort pour moi à la croix, si Jésus est venu sur terre, n'est-ce pas pour me libérer de la chair ? Devant une grosse tentation, devant Miss France, je ne sais pas quoi, Miss Angleterre, tu dis, ah, mais si Jésus est venu sur terre, n'est-ce pas pour me donner la victoire sur ce genre de dossier ? La mission de Christ nous accrochera à la vérité. Je dis, mais à quoi ça a servi que je crois, si c'est pour lâcher maintenant ? Et Jésus lui-même se dit, mais à quoi ça a servi que je vienne ? À quoi ça aurait servi que je vienne sur terre s'il faut ne plus aller jusqu'à la croix ? Je suis venu pour ça. Voilà notre exhortation ce matin. Qu'est-ce qui peut nous raccrocher à la voix du Seigneur ? Qu'est-ce qui peut nous raccrocher à la vérité ? Qu'est-ce qui peut nous donner la victoire sur les tentations ? Qu'est-ce qui peut nous donner la victoire sur les obstacles ? Ben, se souvenir que si Jésus-Christ est venu sur terre, c'est justement pour me donner toutes ces victoires. Finalement, si je lâche, si je tombe, ça voudrait dire que l'œuvre de Jésus-Christ a été vaine. Quand on y pense, on dit « Ah non, ah non ». Vous savez, on doit mettre en balance l'œuvre de Christ et ce qui se passe. Je peux te dire, si tu es un vrai chrétien, forcément l'œuvre de Christ sera plus élevée. Pourquoi nous le glorifions ? Pourquoi nous l'adorons ? Nous chantons qu'il est plus fort que le mal, plus fort que le péché. Nous chantons qu'il est le Dieu vivant. Nous chantons qu'il est la vie. Nous lisons toutes sortes de versets. Romains 8 qui dit « Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. » Car la loi de l'esprit de vie leur a donné la victoire sur la loi du péché et de la mort. Nous lisons tout ça. À un moment donné, quand tu te retrouves face à ces tentations qui sont immenses, qui sont parfois très fortes, comme Jésus-Christ s'est retrouvé devant cette pression négative qu'il attendait. Il savait comment on allait le maltraiter, comment on allait l'injurier, comment on allait le rabaisser. Il savait tout ça et que ça allait finir à la croix. Mais il savait en même temps que c'était sa gloire. Il savait en même temps que c'était sa gloire. Il s'est dit, je fais quoi ? Je fais marche arrière ? Non, je suis venu pour ça. Nous aussi, bien-aimés, quand on est face à tout cela, on doit se dire quoi ? Mais si j'ai cru en Jésus, c'est pour qu'il me donne la victoire sur le péché. Si j'ai cru en Jésus, c'est pour qu'il me donne la victoire sur la maladie. Si j'ai cru en Jésus, c'est pour la victoire sur tout ce qui veut me faire tomber aujourd'hui. Si j'ai cru en Jésus, c'est pour que j'ai le fruit de l'esprit. Je n'ai pas cru en Jésus pour être coléreux, impulsif, violent. J'ai cru en Jésus pour être un agneau. Bien-aimé, si tous les chrétiens y pensaient, personne ne tomberait. Parce que l'œuvre de Christ est plus puissante que n'importe quelle tentation. Elle est plus puissante que n'importe quelle situation. Mais sauf qu'en ce moment-là, on oublie que c'est l'œuvre de Christ qui doit nous soutenir. On cherche le soutien en nous-mêmes. Christ a trouvé le soutien dans la mission qu'il avait. C'est dans la mission. Il s'est dit, mais au fait, je suis venu pour ça. Non, je ne veux pas m'arrêter en chemin. C'est pour ça que je suis venu. Vous vous souvenez quand Jésus envoie ses disciples en mission, il leur dit de ne pas s'arrêter en chemin. De ne pas être distrait par les gens. Concentrez-vous sur la mission. La concentration sur la mission nous donnera la victoire sur tout le reste. Au moment de la proposition, où on te propose quelque chose de très attrayant par le diable, par les humains, par le monde, mais tu te dis, mais finalement, si j'ai cru, c'était pour vaincre ces choses-là. Aujourd'hui, quand on retrouve beaucoup de chrétiens, de pasteurs, esclaves de l'argent, esclaves des voitures, des maisons. On se dit, mais quand je regarde à l'œuvre de Christ à la croix, qu'est-ce que Jésus appelle sa gloire ? Il appelle sa gloire ses souffrances. Le fait qu'il soit démuni, le fait qu'il arrive jusqu'à la croix, c'est ça qu'il appelle sa gloire. Ce n'est pas le nombre de voitures, ce n'est pas le nombre de maisons, ce n'est pas les grands bâtiments. Sa gloire à lui, c'est le fait qu'il souffre. C'est lui qui dit, j'arrive à ma gloire. C'est ça sa gloire. Alors quand on pense à tous, on dit, oh, mais si j'ai cru en Jésus, ce n'est pas pour encore redevenir esclave des maisons, redevenir esclave de l'argent. Bien-aimé, si nous pensons à la mission de Christ, à l'œuvre de Christ, et à ce que nous sommes devenus en lui, parce que nous sommes devenus ses imitateurs. L'apôtre Paul dit, soyez mes imitateurs comme je le suis de Christ. Pourquoi les apôtres ont supporté la souffrance? Il est écrit dans un autre endroit que quand on les a fouettés, ils étaient dans Actes des Apôtres chapitre 4, ils s'étaient même réjouis qu'on les ait frappés à cause de Christ. Tout simplement parce qu'ils cherchaient la ressemblance à Christ. Ils se souvenaient de l'exemple de leur maître qui est mort à la croix, qui a souffert fouetté. Il a reçu plusieurs coups de fouet. Et quel coup de fouet! Il a porté la croix jusqu'à se fatiguer, jusqu'à ce que Simon de Cyrène l'aide. Ils se souviennent que Jésus a appelé ça sa gloire. Du coup, quand ça leur arrivait, ils se disaient, mais nous avons cru, mais c'est pour ça que nous avons cru. Et ils pouvaient tenir dans la souffrance. Mais quand nous sommes haïs, injustement traités par les gens, nous nous choquons nous-mêmes. Pourquoi nous nous choquons? Parce que nos pensées ne sont plus en Christ. Nos pensées sont dans une logique humaine de rendement. Si je fais le bien, je ne dois récolter que le bien. C'est ça la logique du rendement humain. Le bon travail produit de bons résultats. Mais quand on regarde à Christ, Christ nous dit, vous serez haïs de tous. Il y a même des gens qui sont près de vous qui vous trahiront. Quand nous regardons à Paul, Paul a dit « Démas m'a abandonné, tous m'ont abandonné ». Donc aujourd'hui, face à tout ça, quand tu regardes à l'œuvre de Christ, il n'y a eu que Jean et sa mère qui étaient au pied de la croix, les autres ont fui. Quand tu regardes à tout ça, tu dois te dire « Mais en choisissant Jésus, c'est ça que j'ai choisi au fait. » Quand tout ça arrive, tu dois te rappeler de la mission de Jésus, comme lui-même s'est rappelé de sa mission pour qu'il aille jusqu'au bout. Nous devons nous rappeler de ça. Pour chaque tentation, tentation de colère, tentation de violence, tu te rappelles de la douceur de Christ, mais si j'ai choisi cette voie-là, c'est pour être comme Christ. Qui a été giflé dans le Sanhédrin. Il a été giflé. Et il a répondu tranquillement, « Mais pourquoi tu me gifles? Si j'ai fait quelque chose, dis-le-moi. » Voilà quelle a été la réponse de Jésus. Alors quand ça nous arrive, nous devons nous dire, « C'est pour cela que je suis devenu chrétien. » Je suis devenu chrétien pour ressembler à Christ. Et Christ a négocié tout ça en se rappelant sa mission. Ça a été de s'offrir. Donc si ça a soutenu Jésus, c'est ça qui doit nous soutenir aussi. Parce que Jésus a voulu s'arrêter. Dire, oh là 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 là, qu'est-ce qui m'attend là? Je sais que c'est ma gloire, mais c'est trop dur. Après il se dit, mais tiens, mais je suis venu pour ça. C'est pour cela que je suis venu. Donc je continue jusqu'au bout. Bien-aimé, notre exhortation, c'est tu dois mettre Jésus à tout moment et jusqu'au bout dans ta vie. À tout moment, tu dois mettre Jésus. À tout moment, te souvenir de Jésus à tout moment, à tout instant. C'est puisqu'on ne le fait pas, c'est là qu'on se fait avoir. Je ne dis pas que tous les moments seront difficiles, mais lorsque les moments sont difficiles, ou même pas, nous devons nous rappeler toujours Christ. Et lorsque ça devient très difficile, nous rappeler la mission. La mission. Sa mission à lui, c'était de vivre toutes ces souffrances pour notre salut. Notre mission à nous, c'est de ressembler à Jésus. Et qu'est-ce qui nous soutiendra? C'est l'œuvre de Jésus lui-même. Quand tout ça arrive, tu es chrétien, tout ça arrive, tu te souviens de Christ. Est-ce que vous vous rendez compte que les premiers chrétiens avaient une espérance de vie courte? à cause de la persécution. Quand tu devenais chrétien, tu savais que ta vie était en danger désormais. Mais pourquoi est devenu chrétien dans ces conditions-là? Surtout, pourquoi continuer? Tu es chrétien, tu es au courant que ta vie est en danger et tu continues à l'être. Pourquoi? Parce qu'il se disait, mais si j'ai cru, mais c'est en Jésus que j'ai cru. Et comment Jésus a vécu? Jésus a vécu ce que je suis en train de vivre. Voilà. Je ne veux pas faire marche arrière. Ça remet en question toute ma foi. Notre problème, c'est qu'on se dit quoi? Que je tombe aujourd'hui, ça ne remet pas en question ma foi. Je reste chrétien. Je crois toujours en Dieu. Même si je tombe là, ce n'est qu'un péché. Je veux me repentir. Je continue. Mais si on réfléchissait comme Jésus pour dire, mais si je tombe, ça veut dire que tout le temps que j'ai cru en vain. Si on se disait ça, je pense que ça changerait beaucoup de choses. Ça nous délivrerait instantanément. Que tu te dises que si je tombe là maintenant, je remets en cause l'œuvre de Christ. Parce que lui, il est venu pour me donner la victoire sur la chair. Il a été crucifié pour ça. Si aujourd'hui, moi, je lâche dans la dépression, la colère, la vengeance, si je lâche dans l'impudicité, si je lâche dans l'amour de l'argent, mais finalement, Jésus, ça a servi à quoi qu'il vienne. Et lui-même, il le dit, mais si je m'arrête là, ça a servi à quoi que je vienne. Qu'est-ce qu'il nous est dit dans Jean 10:10? On va lire Jean 10:10. Ça a servi finalement à quoi? Que Jésus dise tout cela. Et il y a plein d'autres passages. Nous n'allons pas lire tous, mais vous connaissez tous les promesses du Seigneur. Tu te dis, mais si je m'arrête là, ça va servir à quoi? Qu'est-ce que le Seigneur nous promet dans Jean 10:10?
Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance.
Voilà, frères et sœurs. Tu te dis, mais Jésus a dit qu'il est venu pour que j'aie la vie en abondance, une vie supérieure à une vie humaine. Mais la vie que je veux mener là, est-ce que c'est une vie supérieure à la vie humaine? Une vie de gloire? Non. Tu te dis, non, mais alors pourquoi j'ai cru pendant 20 ans? Pourquoi j'ai cru pendant 15 ans? Pour accepter ce qu'on appelle le petit péché, tu te dis, mais ce n'est qu'un petit péché, ça ne remet pas en question ma foi. Non, tu dois te dire plutôt, si j'ai cru en Jésus, c'est pour vaincre ce péché-là. Voilà, bien-aimé, notre relation avec le péché, comment ça doit être? On doit balancer toute notre foi. Tu dis, mais si Christ est venu, c'est pour que moi j'aie la supériorité sur le mal, sur le péché. On ne doit pas se dire, bon, on est des humains. Mais non, mais on est des humains, mais Christ est venu pour me donner la victoire sur ça. On ne doit pas s'excuser, ni utiliser le fait que les autres aussi pêchent pour que toi aussi tu pêches tranquillement, effrontément. Non, bien-aimé, il faut se surveiller. Chacun sera jugé pour ses propres péchés. Utiliser les péchés des autres pour que toi tu pêches tranquillement en se disant tes péchés sont moins graves est une grave erreur. Le jugement sera individuel. Tu dois te dire, au contraire, au lieu de dire si lui a péché, moi je ne vais pas pécher à cause de son péché. Hein. Ça veut dire quoi? Si je pêche à cause du péché de quelqu'un d'autre, c'est que c'est moi qui suis en train de faire la publicité de son péché. Donc son péché est extraordinaire. Voilà que ça me fait pécher moi-même tranquillement. Non, bien-aimé, si on est vraiment contre un péché, il ne faut pas que ça nous fasse pécher nous-mêmes. Si nous, on pêche à cause d'un autre péché, de quelqu'un d'autre, ça veut dire qui donne la force au premier péché? C'est nous, puisque ça nous fait tomber nous-mêmes. Donc c'est nous qui donnons la force à ce premier péché. Nous croyons qu'en faisant ainsi, nous dénonçons. Ce n'est pas du tout vrai. Quand nous-mêmes nous péchons à cause des péchés des autres, c'est nous qui donnons de la force à ce péché-là. Nous servons l'ennemi. Nous, on doit se dire, si Christ est venu, il est venu pour me donner la victoire sur le mal. Je ne veux pas tomber. Être près de tomber, être proche de tomber, ce n'est pas tomber. Parce que le diable va te dire, tu es déjà prêt, tu as déjà fait 70% avant pour tomber. Va jusqu'au bout, il ne reste que 30% afin que le péché soit consommé. Non, non, bien aimé, être près de tomber, être attiré à tomber, même tout près de tomber, ce n'est pas encore tomber. En ce moment-là, tu dois t'arrêter comme Jésus, dire, ah, si je tombe là, mais à quoi ça sert que j'ai cru pendant toutes ces années? À quoi ça sert que Jésus soit venu? Jésus est venu pour me donner la victoire sur le péché aujourd'hui. Pas d'une manière globale, mais aujourd'hui. On te propose des millions, comme on avait proposé à Élisée. Tu calcules rapidement dans ton cerveau. 3 maisons, 5 voitures, compte bancaire. Mais quand tu vas penser à Jésus, tu te dis, mais si Jésus est venu, il est venu pour me donner la supériorité sur l'argent. Qu'est-ce qui fait que des prétendus hommes de Dieu deviennent des mendiants de l'argent? Ils oublient ce que Jésus est venu faire. Ils oublient la mission de Christ. La mission de Christ, c'est de nous donner la supériorité sur tout ça. Il a dit, on ne sert pas de maître. Il est venu nous donner la victoire sur l'argent, sur toutes sortes de péchés, sur toutes sortes de faiblesses. Donc au moment où tu es attiré, au moment où tu veux craquer, tu dis, mais si Christ est venu, c'est bien pour me donner la supériorité sur l'argent. Tu dis, non, je ne craque pas parce que ça remettrait en question, ça remettrait en cause toute ma foi que j'ai eue depuis le départ. Ça fait des années que je crois. Ça remettrait en question toute l'œuvre de Christ. Il est venu pour nous donner cette victoire. Nous le savons bien aimé, quand il envoie les disciples, il leur dit quoi? De ne rien prendre dans leur poche. Dit, l'ouvrier mérite son salaire, allez comme ça, je m'occuperai de vous. Et quand ils sont revenus dans Luc 22, il leur demande, est-ce que vous avez manqué de quelque chose quand je vous avais envoyé, quand vous êtes partis en mission? Ils ont dit, on n'a manqué de rien. Donc qu'est-ce que Jésus voulait apprendre aux disciples ce jour-là? Je suis plus fort que l'argent. Alors maintenant, quand on est face à ces tentations-là, où les gens veulent nous manipuler par l'argent, où nous-mêmes, on pense que c'est l'argent qui va résoudre les problèmes de l'Église, l'argent qui va résoudre nos problèmes. En ce moment, on se dit, mais si je commence à penser comme ça, il y a un problème, puisque Christ est venu pour le contraire. Se rappeler de la mission de Christ nous aidera à rester dans la vérité. Tu te dis, mais finalement, Christ est venu pour me donner cette supériorité. Alors, et moi, voilà que je commence à conditionner tout à l'argent. Stop. Rappel de la mission de Christ. Ce n'est pas ta force qui va te sauver. Le Seigneur dit, ce n'est ni par la force ni la puissance, mais c'est par mon esprit. Ce n'est pas ta force. C'est l'œuvre de Christ à la croix qui nous donne toute victoire. Et c'est son esprit qui nous rappelle cela. Et quand son esprit travaille en nous pour nous rappeler cela, il nous obtient une délivrance totale. Tu te dis, mais finalement, Christ est venu pour que moi je sois parfait. Là, on veut m'écarter de ma mission. On veut m'écarter de l'œuvre de Christ. Tu dis non, 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 non. Non, 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 non. Vous savez, j'ai lu un petit article sur le gardien Oliver Kahn, un gardien de l'équipe de football de l'Allemagne, de l'équipe nationale allemande. On a dit que ce type-là était tellement attaché à ne jamais perdre que lors d'un match avec les enfants, on a fait un match avec les enfants dont les enfants devaient faire des tirs au but. Et si un enfant marquait, ça allait faire un don pour une association qui aidait les malades. Vous vous rendez compte? Donc, si un enfant marqué face à Oliver Kahn, ça fait que une entreprise, je ne sais pas qui, donnait de l'argent à une association qui vient aux malades, qui en aide aux malades. Mais ce Oliver Kahn était tellement attaché au fait qu'on ne marque pas, il n'a pas laissé les enfants marquer. Est-ce que vous vous rendez compte? Donc cet homme se disait, je suis gardien de but. Je ne suis pas là pour aider les enfants, je suis gardien de but. Les enfants ont souffert pour marquer. À cause de sa mission, il se dit, moi, je suis gardien de but. Le gardien de but, quel est son rôle? Eh bien, empêcher que le but entre. Mais oui, mais si un enfant marque, ça fait de l'argent pour une association de bienfaisance. Eh bien, les enfants n'ont pas marqué. À cause de sa mission, c'est-à-dire que ce type-là était attaché au fait qu'il était qui? Gardien de but. Donc, quand on est attaché à la mission, tu te dis, mais je suis qui? Disciple de Jésus. Et Jésus, comment il a été? Tu dis, ah non, si je tombe dans ce péché, je tombe dans ce travers, ça remet en question ma foi. Ça remet en question tout cela. C'est ça qui nous donnera la victoire sur le péché. Chaque péché, nous devons le mettre en confrontation avec l'œuvre de Jésus, avec notre mission, avec sa mission à lui. Et nous aurons la victoire. Chaque obstacle, bien-aimé, nous devons mettre ça en confrontation avec l'œuvre de Jésus. Je vous ai déjà raconté une fois, là maintenant on passe des tentations du péché au projet du Seigneur, au travail du Seigneur. Une fois, je me suis retrouvé en Guyane, on avait notre bien-aimé qui prenait de cours de pilotage et il a proposé qu'on aille dans une ville de la Guyane qu'on n'atteint que en avion puisque c'est la forêt équatoriale, la forêt amazonienne qui sépare la capitale Cayenne de cette ville qui s'appelle Maripasoula. Alors il a proposé qu'on y aille prier. Mais c'est lui qui allait piloter un avion à quatre places. Et bien aimé, déjà à l'époque, j'étais même pas à l'aise dans les grands avions à 200 places. Et là, c'était un petit avion à quatre places. Bien aimé, quand vous vous approchez de ces avions-là, vous avez l'impression qu'en l'air, ça va se désintégrer. Parce que les choses ne sont pas fixées. On a l'impression que tout n'est pas bien fixé. Et quand des choses comme ça arrivent, tu te dis, ah, je suis quand même père de 5 enfants, et puis... Mais la question est venue. Jésus est venu, pourquoi? Et moi, il m'a établi, pourquoi? Il m'a établi pour sauver l'humanité. Maintenant, on me propose d'aller prier, quelque part. J'ai envie de toutes mes forces de dire non. Entrer dans ce petit avion-là qui semble plus petit qu'une voiture. Mais quand je me souviens de ma mission, je dis non. Quand je me souviens qu'un jour, moi aussi, j'enverrai des gens à Maripasoula, je dis non. Si moi, un jour, j'enverrai des gens, moi-même, je dois y aller. Je me rappelle de ma mission. C'est quoi? C'est de gagner le pays. Mais on gagne le pays comment? Pas seulement en priant à distance, mais c'est en allant sur place. Tout lieu que foule la plante de vos pieds, Dieu vous le donne hein, en possession. Parfois, certains bien-aimés ne comprennent pas qu'on fasse des voyages parfois à deux dans un pays pour peu de personnes. Mais oui, mais on ne gagne pas le pays seulement quand il y a beaucoup de gens. On gagne le pays par la prière, en foulant le sol. On va sur place. On prie. Abraham, c'est ce que Dieu lui avait dit de faire le tour du pays. À Josué, il a dit dans Josué 1:3, tout lieu que foule la plante de tes pieds, je te le donne en possession. La prière nous fait gagner le pays. Nous ne marchons pas selon la vue, mais par la foi. Et je me suis dit, mais Christ est venu pour Maripasoula aussi. Je me suis dit, mais ma mission, c'est de suivre Christ. Vous savez, dans la suite, il dit, dans le texte qu'on a lu, « Là où je suis, c'est là que sera mon serviteur. » Je me dis, mais Ce n'est pas de gaieté de cœur, bien-aimé. Je me dis, si je ne monte pas dans cet avion, toute ma foi est perdue. Au fait, j'y entre parce que je ne veux pas que ma foi disparaisse. Je ne veux pas, pendant toutes ces années, j'ai cru en Christ. C'est pour échouer devant un petit avion. Non. Je suis monté. Même si dès qu'on monte, après on regrette. Mais je ne pouvais pas ne pas monter. Ça voudrait dire que pourquoi j'ai cru en Christ, n'est-ce pas, puisqu'il est ma protection. Le problème est là. Il y a des gens qui ont condamné le jeune homme qui est parti dans les îles Andaman, les îles où personne ne voit vers l'Inde. Les îles, ça appartient à l'Inde, mais même l'État indien ne met pas pied là-bas. C'est des gens qui sont comme ça depuis des siècles. On ne veut pas les déranger. Ils sont environ 300. C'est des tribus qui vivent comme une tribu qui vit comme ça. Et dès qu'un étranger va là-bas, ils tuent l'étranger. Ils ne veulent pas qu'il y ait d'autres étrangers. Ils ont déjà tué beaucoup de gens. Et le jour où un chrétien est parti leur apporter l'évangile récemment, on l'a tué. Les gens ont crié, il s'est pris pour qui, voilà, tout le monde sait qu'on tue les gens là-bas. Pourquoi lui, il est parti? Mais parce qu'un jour, ce chrétien-là s'est dit, si je ne pars pas là-bas, ça veut dire que tout ce en quoi j'ai cru est vain. Le Seigneur a dit, allez faire de toutes les nations des disciples. Certainement dans la nuit, certainement dans la journée, ce verset-là est venu fortement dans son cœur. Il a senti que s'il n'allait pas là-bas, il perdait toute sa foi. C'est ce qui arrive à notre Seigneur Jésus-Christ. En ce moment-là, il sent combien, vous savez, les souffrances de Jésus, je ne peux même pas les expliquer parce que ce n'est pas humain. Parce que les démons sont mêlés à ça. Il y a des pressions surnaturelles qui sont mêlées à ça. À part les souffrances physiques que nous, on peut voir, qui sont déjà exagérées, mais les souffrances n'étaient pas que ça. Il y avait d'autres choses. Ce n'est pas notre sujet d'aujourd'hui. Alors, quand Jésus sent tout ça, il veut reculer, mais il dit, mais non, mais je suis venu pour ça. Je suis venu pour ça, donc c'est ça ma mission. Ça remet en question tout. Pourquoi je suis venu naître dans une étable? J'ai accepté 30 ans d'être inconnu. J'ai prêché ce que j'ai prêché. Et maintenant, dois-je reculer? Dis non. Ce garçon-là, certainement, il a eu une pression d'un des versets bibliques que nous lisons là. Qui lui a fait la sensation que s'il n'allait pas dans les îles Andaman, sa foi était zéro. Bien aimé, entre la foi et la vie, je préfère la foi. La vie sans la foi est une vie pourrie, une vie désespérée. Alors il a préféré prêcher aux îles, aller prêcher aux îles Andaman. Dès qu'il est arrivé, on l'a tué. Mais au moins, il est mort dans la foi. Je préfère mourir dans la foi que vivre sans foi. Vivre sans foi, c'est une vie morte spirituellement parlant. Ce n'est pas une vie. Bien-aimé, quand on est monté dans l'avion, on est arrivé dans les airs, dans la forêt équatoriale, au-dessus de la forêt équatoriale, je dis, mais qu'est-ce qui m'a pris d'entrer dans cet avion-là? Parce que, bien-aimé, c'est tellement petit que tu as l'impression que tu es sur un oiseau. Et donc, tous les mouvements, tu sens, même les petits mouvements. J'ai dit, mais qu'est-ce qui m'a pris? Et sur le chemin du retour, un nuage nous bloquait la route. Et le frère n'avait pas le diplôme pour traverser les nuages. Donc on était cuit là-bas. Et il nous a pas dit que l'essence était aussi comptée. Donc à un moment donné, on se dit, mais on fait comment? Moi j'ai dit, on descend un peu. Et lorsqu'on descend, on veut cogner une colline. Ah, on remonte. Mais tout ça, pour que notre foi soit vivante, bien-aimé. Parce que sinon, si j'avais reculé ce jour-là, ma foi était morte. Pourquoi j'ai cru en Jésus? Pour que, arrivé ce jour-là, je dise, il ne peut pas me protéger. C'est ça le problème. C'est-à-dire que tu te dis, mais finalement, j'ai cru. Pourquoi? Si maintenant, je m'inquiète en ce moment-là. Les obstacles de la vie dans le service de Dieu. Je dis, mais finalement, ça nous est arrivé comme ça. À un moment donné, on n'arrivait pas à payer la salle. Moi, j'ai appelé, j'ai dit, écoutez, s'il n'y a pas, on quitte la salle. On n'a pas cru en Jésus pour dépendre d'une salle. On n'a pas cru en Jésus pour dépendre de l'argent des humains. Si c'est ça, notre foi est morte. S'il n'y a pas d'argent, nous servirons l'Éternel. Parce que c'est lui qui nous a dit, comme je me mets à la place des apôtres, allez sans argent. Maintenant, si je dois reculer à cause de l'argent, je perds toute ma foi. Mais pourquoi j'ai cru finalement? Pourquoi Christ est venu finalement? Bien-aimé, c'est ça. Tu te poses la question, mais pourquoi j'ai cru? Si je dois reculer face à cet obstacle, qu'est l'argent? Si je dois reculer, tu arrives dans un endroit pour prêcher, il n'y a que 3 personnes. Ah, mais il n'y a que 3 personnes. On verra demain. Ah non! Il n'y a que 3 personnes, on prêche. Parce que Christ, quand il est parti voir Zachée, il n'est parti voir que Zachée. Il a parlé avec Zachée. Il n'était pas parti pour quelqu'un d'autre. C'était pour une personne. Quand la femme qui souffrait de perte de sang l'a touché, elle était seule à le toucher ainsi. Elle a été guérie. Même pour une personne, Christ se serait déplacé. Donc quand on arrive dans ces situations-là, tu dis, mais qu'est-ce que Jésus aurait fait? Jésus se serait occupé de ces 3 personnes-là. C'est pourquoi les apôtres, quand vous lisez les actes des apôtres, ils arrivent dans un endroit où il n'y a pas beaucoup de personnes, ils disent, ceux qui devaient être sauvés ont été sauvés. Ils avaient compris que tout était calibré par le Seigneur, eux, ils devaient qu'imiter ce que le Seigneur lui-même avait fait. C'est tout, ils n'avaient pas à faire les choses pour le nombre ou pour quoi que ce soit. Donc les obstacles dans le ministère, bien-aimé, ne regardons pas à cela, regardons toujours à Jésus, toujours à Jésus. Comment lui, il a fait les choses face à tout cela? Comment il a fait? C'est important, bien-aimé. Si je suis arrivé jusque-là, dit Jésus, mais c'est pour aller à la croix. Maintenant que je suis au seuil de l'œuvre de mes souffrances, je veux faire marche arrière. Alors, mais pourquoi avoir attendu 30 ans? Il fallait seulement qu'au ciel du ciel, je dise, je ne viens pas croire. Maintenant que je suis déjà venu, on y va, bien-aimé. On y va. Maintenant que, bien-aimé, on a choisi Jésus, prenons tout ce qui est de Jésus. La patience, la bonté, la douceur, la vérité, la victoire totale sur le péché, même sur le plus petit péché. Même sur le plus petit péché, tu dois balancer ça avec l'œuvre de la croix, dire, mais si je me mets en colère, ça semble un petit péché, mais là, ça ne ressemble pas à Christ, j'arrête. Pourquoi Jésus est venu? Il est venu pour me donner cette victoire-là. La victoire sur les obstacles dans le ministère, on doit se dire, mais pourquoi je suis chrétien? Pourquoi on est là? On est là pour travailler pour le Seigneur. Quel que soit l'obstacle, on doit continuer. Pourquoi j'ai cru pendant toutes ces années? C'est pour travailler pour le Seigneur. Je n'ai pas cru pour qu'on me mette à l'aise. J'ai cru pour que je me donne comme le Seigneur s'est donné lui-même. Ce souvenir de la mission, ça va nous aider. Pourquoi les gens divorcent? Mais parce que la personne ne les met pas à l'aise. Mais en ce moment-là, tu dois te dire, j'ai cru pourquoi? J'ai cru pour être comme Jésus, qui s'est offert en rançon pour les autres. Je n'ai pas cru pour qu'on me mette à l'aise. Il faut se souvenir de la mission de Christ. Autre chose, bien-aimé, ce sont les épreuves. Maladie, licenciement, accident, mort d'un proche, tout ça quand ça arrive, on doit se dire quoi? Mais j'ai cru que tout concourt pour le bien de ceux qui aiment Dieu. Mais tu te dis, mais pendant tous ces 30 ans, j'ai chanté, j'ai prêché. Mais c'était pour vivre ce que je vis là maintenant. j'ai encouragé les autres. Maintenant que ça m'arrive, je vais reculer. Non. Ma mission, si on a cru en Jésus, c'est justement pour nous donner la victoire dans ce genre d'épreuve, vrai ou faux. C'est ça. Mais sinon, à quoi ça sert qu'on ait cru? C'est ce que Jésus lui-même dit. Ça sert à quoi que je sois venu? Lisons Philippiens 4, 13. Finalement, ça sert à quoi? Si j'ai cru, c'est pour que, devant de grosses difficultés, le Tout-Puissant intervienne. Jésus intervienne. Et il est écrit dans le psaume 112, verset 7, que le juste ne craint pas les mauvaises nouvelles. Il ne craint pas parce qu'il sait que Dieu est plus fort que cela. Donc si j'ai cru, c'est pour ça. Maintenant que la mauvaise nouvelle vient, tu paniques parce que tu veux gérer ça par tes propres forces. Il y a un problème. Tu as oublié Jésus. Tu as oublié l'œuvre de Christ à la croix. Tu as oublié sa mission alors qu'à la croix, il a dit tout est accompli. Lisons Philippiens 4, 13.
Je puis tout par celui qui me fortifie.
Je puis tout par celui qui me fortifie. Donc à chaque fois que je veux penser à Christ, je surmonterai tout obstacle. Notre problème, c'est qu'on oublie Christ. On se croit quelqu'un. On se croit fort. On veut se débrouiller par nous-mêmes. On veut résoudre des choses par soi-même. Et on ne trouve aucune ressource, alors on tombe. On ne trouve aucune ressource, alors on crie. On ne trouve aucune ressource, alors on choisit le mal. Parce que, finalement, on a oublié notre mission. On a oublié l'œuvre de Christ. Face à tout ça, maladie, accident. Nous devons toujours penser quelle est la mission du Seigneur. Même parfois, accident dans les choses de Dieu. Hein. Un serviteur de Dieu, mais à la veille de faire un meeting en Afrique du Sud, il avait fait une tente. Une tente, une très grande tente. C'était la plus grande tente de l'époque. C'était le record de Guinness. De l'époque, la plus grande tente, je crois que ça pouvait contenir 10 000 personnes. Une tente qui pouvait contenir 10 000 personnes. Quelques jours avant l'évangélisation, le vent a soufflé, a déchiré la tente. Mais là, il va y avoir toujours des gens qui pourront dire quoi? Oh, certainement, il a un problème dans sa vie. Mais, bien aimé, quand tu es de Dieu, c'est en ce moment-là, tu dis, j'ai cru pour ces moments-là. J'ai cru en Jésus pour ces moments-là. C'est là. Et quand il a eu cette attitude-là, le Seigneur lui a répondu, hein, vous n'avez pas besoin de tente. Vos louanges vont être une tente au-dessus de vous. Et ce jour-là, il y avait tellement de monde que, effectivement, la tente allait être petite. C'est Dieu lui-même qui a fait que la tente soit cassée parce qu'elle n'allait pas pouvoir contenir tout le monde. Et il a dit, vos louanges vont être une tente au-dessus de vous. Et depuis ce jour-là, ce serviteur n'avait plus jamais utilisé de tente. Il faisait le meeting en plein air, comptant sur les louanges du Seigneur pour couvrir à chaque fois. Bien-aimé, c'est ça, marcher avec le Seigneur, se souvenir. Mais si j'ai fait la tente, c'est pourquoi? C'est pour prêcher aux gens, c'est pour Dieu. Mais si ça se casse, c'est lui, c'est pas moi. Mais quand on oublie ça, on commence à entendre les critiques des gens. Oh, mais peut-être la tente avait été faite précipitamment. Peut-être. Quand tu oublies Christ, tu vas te faire avoir dans l'agitation. Mais quand tu reviens à lui, tu dis, mais j'ai fait ça pourquoi? J'ai fait ça pour prêcher l'évangile. Tu te souviens de ta mission? Mais j'ai fait ça pourquoi? Est-ce que c'est pour gagner l'argent? Mais non, j'ai fait ça pourquoi? Pour sauver les âmes. Eh bien, le Seigneur est au contrôle. Je ne veux pas reculer. C'est ça, bien-aimé. Se souvenir de la mission de Christ et de notre mission en Christ. Quelqu'un est malade, on se souvient, Christ est mort à la croix, il est par ses maîtres sûrs, nous sommes guéris, nous prions. Nous ne prions pas en souvenir de notre exploit d'hier, parce que peut-être hier il n'y a pas eu d'exploit, et on cherche d'exploit, on ne voit pas l'exploit qu'on a fait, et on n'arrive pas à prier, on se dit, ah mais la maladie là est trop grave. Non, On doit se souvenir de l'œuvre accomplie par Jésus et se dire, mais si j'ai cru, j'ai cru en la guérison des malades aussi. J'ai cru en tout ça. Et je veux prier en fonction de ce que Jésus a fait à la croix. Pas en fonction de mes bons souvenirs, mais en fonction de ce qu'il a fait. Se souvenir de ça, beaucoup de gens utilisent leurs bons souvenirs pour faire des bonnes choses. Non, il faut se souvenir que Christ est venu pour ça. Il est venu pour guérir. Il est venu pour nous sortir des épreuves les plus graves. Comme lorsque on demande l'impôt à Pierre, il va voir Jésus. Jésus lui dit, va pêcher un poisson. Dans le poisson, tu trouveras l'argent de l'impôt. Alors, quand tout ça arrive, j'ai déjà raconté une épreuve comme ça qui m'était arrivée, où je devais payer un impôt parce que j'avais hébergé quelqu'un qui avait travaillé alors que moi je ne travaillais pas, mais en ayant hébergé quelqu'un qui travaillait, donc le fisc m'a envoyé l'impôt à moi. La taxe d'habitation, 400 euros. Et d'ailleurs, j'avais hébergé la personne dans la région parisienne quand j'y étais, et la taxe me suit quand je suis à Rouen. Le réflexe, c'est quoi? Appeler la personne pour dire, mais j'étais hébergé, voilà l'impôt. Mais quand je plonge dans la Bible, je dis, mais est-ce que Jésus aurait fait ça? Mais non. Jésus, s'il aurait hébergé quelqu'un, il aurait pris tout en charge. Vrai ou faux? Nous a-t-il pas pris en charge totalement? J'ai dit non. Mais oui, mais comment tu vas payer? Un autre souvenir est venu. Ah, mais tiens, Jésus avait fait pêcher le poisson en pierre. Il avait trouvé de l'argent dans le poisson. Ah! N'est-il pas écrit dans Hébreux 13, 8, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement? Il dit alors, Seigneur, moi aussi, il me faut un poisson pour moi. C'est tout simple, bien-aimé, se souvenir de l'œuvre de Christ, de se souvenir pourquoi il est venu. Il est venu pour nous sortir de toute situation. C'est ça. Il est venu pour ça. Il est venu tout prendre sur lui de mal contre nous à la croix. Ainsi, nous sommes délivrés. Et bien-aimé, quand j'ai prié comme ça, j'ai dit, Seigneur, il me faut aussi un poisson pour régler le problème de cet impôt. J'ai eu la paix dans le cœur et je sais, j'ai oublié comment j'ai payé ça, mais je sais que ça a été payé. Mais je n'ai pas appelé la personne pour lui dire, c'est toi, à toi de payer, c'est moi qui ai pris ça en charge, mais ce n'est pas moi qui ai pris ça en charge, c'est le Seigneur. Parce que je me suis souvenu de pourquoi il était venu. Se souvenir de cela. C'est très important, bien-aimé. Dans les épreuves, pourquoi j'ai cru? J'ai cru parce que le Seigneur est tout puissant. J'ai cru qu'à la croix, il a tout accompli. Pourquoi? La mission va nous aider. La mission va nous aider. Le rappel de la mission. Vous savez, il y a Joseph, hein? Qui est là, dans toutes sortes de souffrances, pendant des années. Mais, il se souvenait toujours de ce que Dieu lui avait donné comme appel. Et devant la tentation de la femme de Potiphar, il n'a pas cédé, parce qu'il se souvenait de sa mission. Devant la tentation de faire un compromis, grave, parce que ça allait être un compromis non seulement avec la femme, mais aussi un compromis financier parce qu'il allait devenir riche en prenant cette femme-là. Devant cette tentation-là, il n'a pas cédé parce que son appel, il savait que son appel était plus fort que tout ça. Et donc Jésus, devant le moment où il veut, Satan le tente, hein, pendant 40 jours dans le désert, Satan le tente, il dit, mais hey, je peux te donner tous les royaumes. Jésus sait que lui, il sera consacré, reconnu roi des rois, seigneur des seigneurs de tout l'univers. Pas seulement des royaumes de la terre, de tout l'univers. La mission de Jésus, son appel, dit non, 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 j'ai pas besoin de t'adorer. Nous oublions notre appel, nous oublions notre mission. C'est ça qui nous soutiendra.
Et beaucoup de gens ne sont même pas conscients qu'ils sont appelés. Beaucoup de gens se pensent, parce qu'ils n'ont pas de titre, diacre ou pasteur, ils se négligent et ils tombent dans le péché facilement, ils tombent dans la colère facilement, ils tombent dans l'orgueil facilement, ils oublient qu'ils sont de Jésus. Nous sommes des disciples de Jésus, appelés tous à être comme Jésus. Il n'y a pas d'excuse à dire, moi je ne suis pas pasteur, je ne suis pas ceci, donc je peux fumer, je peux prendre ceci. Non, on est tous appelés à être comme Jésus. Et devant ces situations-là, que ce soit les tentations, que ce soit les obstacles dans le ministère, que ce soit les épreuves de la vie, nous devons nous rappeler notre appel et dire, mais qu'est-ce que Jésus a fait? Je suis un autre Jésus. J'ai la responsabilité d'être Jésus sur cette terre. Qu'est-ce que Jésus avait fait? Si je ne fais pas comme lui, finalement, pourquoi j'ai cru? Si je ne fais pas comme lui, finalement, ça veut dire qu'il a échoué à la croix, alors que lui, il a dit qu'il a tout accompli pour que moi, je réussisse. Quand on pense à tout ça, on dit non. Ça remet en question toute ma foi, ça remet en question toute ma vie. Je refuse de céder. Je refuse de tomber. Je refuse de reculer. Je refuse de reculer. Satan te dira, ça ne marche pas. Laisse tomber le travail de Dieu. Ça ne marche pas. Les hommes sont mauvais. Mais si toi tu es bon, pourquoi il n'y a pas d'autres bons? Il n'y a que toi qui es bon. Il ne faut pas écouter la voix de Satan. Élie croyait être seul. Mais Dieu dit à Élie, il y a 7000 autres. Et tu n'es pas seul. Satan va te dire, tous les hommes sont mauvais. Reste seul. Ah donc, seul, ça veut dire que c'est toi seul qui est dans le monde entier qui est bon. Ah, il y a un problème. Quand tu vas te souvenir que Christ a dit quoi? Il n'y a de bon que Dieu. Quand on l'a appelé bon maître, il a dit, il n'y a que Dieu qui est bon. Aucun d'entre nous n'est bon. Est-ce que vous vous rendez compte? Qui est-ce que Jésus choisit comme collaborateur? Après avoir prié combien de temps? Toute une nuit, il va choisir des pêcheurs de poissons comme collaborateurs. Il choisit même celui qui va le trahir. N'est-ce pas, on va dire, mais oh, il a prié pour choisir des gens comme ça, des zéros. Mais non, ce choix-là montre quoi? Ça montre que Jésus comptait sur qui? Il comptait sur Dieu. Il comptait sur son Père, il ne comptait pas sur ces gens-là qu'il choisissait. Il ne les a pas choisis parce qu'ils étaient bons, ils étaient forts. Il les a choisis parce que c'était la volonté de son Père. Bien-aimés, grandissons, grandissons. C'est pourquoi quand des problèmes arrivent, tu dois te souvenir comment j'avais fait le choix. Si tu avais fait le choix par le Seigneur, si tu avais choisi ton mari par le Seigneur, si tu avais choisi ta femme par le Seigneur, fais confiance au Seigneur. Si tu avais choisi tes collaborateurs par le Seigneur, fais confiance au Seigneur. Le Seigneur est au contrôle de tout. Le Seigneur n'a pas fait confiance à Pierre ni à tous ces gens-là. Il a même dit à Pierre, tu me renieras. Mais c'est lui-même qui a dit aussi à Pierre que c'est, Pierre, tu es Pierre, sur ce roc, je bâtirai mon église. Donc finalement, tout ça, c'est pour nous dire que Jésus comptait sur son Père. Il ne comptait pas sur les gens. Maintenant, toi, Satan va te dire, ah mais oui, un tel t'a trahi, donc tu ne fais plus confiance à personne. C'est faux, fais confiance en Dieu. Si tu fais confiance en Dieu, tu feras confiance à tout le monde. Ah oui, l'amour ne soupçonne point le mal. Amen. Mais les gens viendront dire, mais pasteur, tu n'as pas vu ce qui s'est passé? Donc là maintenant, j'ai dit, il n'y a pas de là maintenant. Moi je suis Dieu, je ne suis pas les hommes, je ne suis pas les mouvements. Il n'y a pas de là maintenant. Nous suivons l'Esprit Saint, comme Jésus a suivi l'Esprit Saint. Il a dit, je ne fais que ce que je vois mon Père faire. Même chose que je lui fais, moi aussi je fais. Même si ça va paraître anormal qu'on choisisse des pêcheurs de poissons pour prêcher la parole, alors qu'il y a des pharisiens qui ont été éduqués, qui ont fait des écoles pour ça, on va choisir des pêcheurs de poissons. Ben oui, c'est le choix de Dieu. Un point, c'est tout. On va choisir quelqu'un, un voleur pour le mettre trésorier. C'est ce qu'était Judas. Et on le met trésorier. On dit, mais quel choix Jésus s'est planté là? Il ne s'est pas planté, il a suivi son Père, c'est tout. Bien-aimés, attention, grandissons, rappelons-nous de Christ. Si on se rappelle de Christ, on éviterait beaucoup de pièges. Quand les gens viennent te dire, maintenant tu es un homme de Dieu, maintenant il faut t'habiller de telle manière. Maintenant, oh, dis-leur, mais je n'ai pas vu ça chez Jésus. Ces considérations-là. Maintenant, on doit te porter ton sac. Non, je n'ai pas vu ça chez Jésus. Finalement, pourquoi j'ai cru? J'ai cru pour ressembler à Jésus. Je n'ai pas cru pour ressembler à ce que les gens disent, mais pour ressembler à Christ. Quand les gens viendront avec des discours de sagesse humaine, tu leur dis, stop. Est-ce que vous avez vu Jésus faire ce que vous me proposez là? Bien-aimés, restons sur Jésus. Restons sur la parole. À tout moment et jusqu'au bout. À tout moment, dans toutes les sources, tu mets Jésus. Et jusqu'au bout, comme lui, il s'est dit, je vais jusqu'au bout. Je suis venu pour la croix. Je vais jusqu'au bout. Nous aussi, on doit aller jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Tu dis, mais finalement, pourquoi j'ai cru? Alors, je vais jusqu'au bout. Jusqu'au bout dans la vérité. Jusqu'au bout dans la ressemblance à Christ. Mes positions, elles viennent d'où? Elles viennent de Jésus. Elles viennent de la ressemblance de Christ ou de mes raisonnements. Choisis la ressemblance à Jésus-Christ. Il n'y a pas de grand dans ce monde. Il n'y a que Jésus seul qui est grand. Seul Jésus. Personne n'est quelqu'un. C'est Jésus qui est tout. Il a dit, je suis venu pour ça. Alors je ne recule pas. Je suis venu pour ça. Alors je vais jusqu'au bout. Alors bien-aimés, nous devons l'imiter. À tout moment. Comme Jésus. Joseph l'a fait. Je suis venu pour ça. Abraham l'a fait. On lui dit de sacrifier son fils. Et vous savez, pour éviter certaines agitations, les choses très élevées, on n'en parle à personne. Quoi. Parce que si Abraham avait dit ça à sa femme, ou bien à des amis, que je vais sacrifier Isaac, oh, donc il y aurait eu des problèmes. Lui, il savait que c'était la voix de Dieu. Il a dit, mais cette voix-là m'a fait sortir de Canaan. Cette voix m'a fait faire telle chose. M'a conduit jusqu'à aujourd'hui. M'a donné toutes sortes de victoires. Maintenant que cette voix me demande de sacrifier mon fils, je vais dire non. Je vais aller jusqu'au bout. À tout moment et jusqu'au bout. Parce que cette voix a tout fait pour moi. Maintenant, la même voix me demande de sacrifier le fils. En plus, on me demande de sacrifier. La même voix m'avait dit que c'est mon descendant. Vous savez, le problème d'Abraham, il avait deux situations contradictoires dites par la même voix. Celui qui va te succéder, c'est Isaac. La même voix a dit, il faut le tuer. Mais il fait quoi? Il obéit à quoi? À la même voix, Abraham a accepté ce que la voix avait dit en disant, ça va être ton descendant. Il accepte aussi ce que la voix dit, il faut le tuer. Et quelle a été la solution? La solution, Abraham s'est dit, selon Hébreux 11, Dieu allait le ressusciter. La révélation de la résurrection est venue de l'obéissance à Abraham à suivre la même voix, quel que soit ce que la voix disait. Puisque c'est cette voix-là. Et bien aimé, la parole, nous devons la suivre, quel que soit ce qu'elle dit. Parce que nous avons cru en elle pour recevoir la vie. Et maintenant Jésus dit, il faut me manger. Ah, tout le monde le quitte. Et Jésus dit aux 12, mais vous aussi vous devez quitter. Pourquoi vous ne quittez pas? Mais c'est toi qui as les paroles de la vie éternelle. Nous avons. Au fait, ils ont dit à Jésus, mais Jésus, si nous pouvons même te comprendre, si même nous sommes là, c'est toi qui nous as donné ces paroles-là de la vie éternelle. Maintenant, nous allons y renoncer parce qu'on n'a pas compris cette dernière parole. Ah non, 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 non. Nous restons accrochés à toi. Il faut rester accroché à Jésus quoi qu'il arrive. C'est Jésus qui a les paroles de la vie éternelle. On n'est pas accroché à un système. On n'est pas accroché à quelqu'un. On doit être accroché à Jésus, quoi qu'il arrive. Est-ce que tes choix viennent de Jésus? Jésus était accroché à sa mission, quoi qu'il arrive. Il a dit, j'ai peur, je tremble, ça va être trop dur pour moi, très dur. Mais si je suis venu sur terre, c'est pour aller jusqu'à la croix. Alors, jusqu'au bout, bien-aimé, dans tous les domaines de nos vies, mettons Jésus. À tout moment, et s'il faut aller jusqu'au bout, aller jusqu'au bout, sinon ça remet en question tout. Le péché que tu commets remet en question toute ta foi. Ce n'est pas un accident au passé. Est-ce que, je vais vous dire, si Jésus avait péché une seule fois, est-ce que nous on serait sauvés? Alors, donc on n'a pas à négliger un seul péché. Dire, ah ben c'est pas grave, je me mets en colère aujourd'hui, le soir je demanderai pardon. Ah non! Le péché que tu commets là me remet en question toute ta foi. Tu dois prendre ça au sérieux. Je ne dis pas que si on a commis un péché, c'est fini. On a commis un péché, voilà, le Seigneur nous pardonne à cause de 1 Jean 1,9, à cause de son sang. Mais quand on demande pardon, quand on se repent. Mais je dis tout simplement, on doit prendre au sérieux chaque moment de nos vies. Mettre Christ chaque moment de nos vies et aller jusqu'au bout. Jean Schwab a fait 3 ans d'hôpital en hôpital. 3 ans en Suisse, après un accident de train. C'était un chrétien véritable. Et il a fait un accident de train et son corps s'est abîmé. Il était hospitalisé d'hôpital suisse, français, américain, tout mélangé. Je ne sais pas français, mais en tout cas américain et suisse. Mais pendant 3 ans, pas de guérison. Et la dernière hospitalisation, c'était fini pour lui selon un médecin. Le médecin a dit aux infirmières, je signe l'acte de décès ce soir afin que vous ne me réveilliez pas la nuit pour venir le signer. Car cet homme n'arrivera pas jusqu'au matin, il mourra ce soir. Mais pour éviter que vous me réveilliez afin de venir signer, je signe déjà à l'avance, vous n'aurez qu'à mettre l'heure de la mort plus tard. Et Jean Schwab qui était alité, il a entendu ça. Bien, mais quand tu entends ça, tu dis, c'est un peu comme la mort est comme un sommeil aussi. Bon, je vais dormir et partir quoi. Ah non, Jean Schwab s'est souvenu que Dieu l'avait appelé. C'est un appelé de Dieu. Mais pourquoi Dieu m'a appelé si c'est pour mourir comme ça à l'hôpital? Il s'est souvenu de l'œuvre de Christ à la croix. Il est venu pourquoi? Pour que nous soyons guéris aussi. Il s'est souvenu de ça. Par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Alors, il écrit dans son témoignage, j'ai réuni toutes mes forces pour crier à Jésus, pour dire Seigneur Jésus. Mais tu es venu pourquoi? Pour cela. Quand il a réuni toutes ses forces, ses dernières forces, il a crié à Jésus. Cette nuit-là, sa chambre était illuminée. Le Seigneur est entré dans la chambre. Il a fait lever Jean Schwab. Il a dit, j'ai senti en moi comme de l'électricité qui réparait tous mes os, tout mon corps. Et mon corps a été réparé à la fin. Donc, il était, on peut dire, ressuscité. Et le corps complètement réparé. Et quand le médecin revient le matin, il dit, alors, tout le monde était en train de sourire. Mais alors, il est vivant. Comment ça, il est vivant? Oui. Il entre dans la chambre, il voit Jean Schwab assis, en train de sourire. Et ce jour-là, beaucoup de gens à l'hôpital se sont convertis en Jésus-Christ. Jean Schwab est parti jusqu'au bout. Il est parti jusqu'au bout à réclamer l'œuvre de la croix. Et il a été guéri. Bien-aimés, allons jusqu'au bout. Ne nous arrêtons pas en chemin pour une raison quelconque. Jean 19, 30, Christ a tout accompli à la croix. Amen. Seigneur, nous te bénissons pour l'œuvre accomplie à la croix, Seigneur. Merci pour ta fidélité.
Merci pour ta fidélité et ta gloire. Merci pour ta bienveillance, Seigneur. Merci de nous aider à aller jusqu'au bout et à te mettre à tout moment, Seigneur, à te mettre à tout moment, dans tout événement dans nos vies, dans toute tentation, à nous dire face à la plus grande tentation, mais finalement Christ est venu pour que je sois vainqueur. Et quand on se souvient de ça, on ne tombe pas, Seigneur. Quand on se souvient que tu as vaincu tout obstacle, on ne recule pas, Seigneur. On ne recule pas parce que tu es venu pour nous donner la victoire totale, Seigneur. Merci de nous soutenir. Merci de nous rappeler ces choses, que nous fixions les regards sur toi, sur l'œuvre accomplie à la croix, totalement, chaque jour, que nous nous disions comme toi, mais pourquoi je suis devenu chrétien? Je suis devenu chrétien pour faire comme Jésus exactement. Je suis devenu chrétien et je confesse la victoire en Jésus. Alléluia.